Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonances, l'émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine. Mon invitée est la poétesse Alban Gélé, que je remercie de m'accueillir sur son lieu de résidence au domaine du Bré. Nous sommes donc en plein Maine-et-Loire. Cette résidence est organisée par la MIEL, Maison internationale des écrivains et de la littérature. Nous ne sommes donc pas en studio, et vous nous pardonnerez les éventuelles petites imperfections sonores qu'implique ce genre d'exercice. Alban, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous présenter, je dirais que vous êtes née le 7 décembre 1971 à Guérande, le sud de la Bretagne, là où l'on récolte le sel, le plus célèbre de France. Et vous vivez tout près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Après des études de lettres modernes, vous avez commencé à travailler en tant que bénévole à la Maison de la Poésie de Nantes et vous avez organisé, de 1999 à 2012, dans différents lieux, Saffré, Oudon, Abaretz, Saumur, des événements et des actions autour de la poésie, de la littérature, au sein d'associations telles que Hurluberlu, Compagnie Sans Doute, Poyenne. Et vous êtes la cofondatrice de Littérature et Poétique, devenue la Maison des Littératures. Vous avez créé en 2014 Petits Chevaux et Compagnie, qui propose des temps et des espaces aux enfants et à leurs familles pour vivre les liens avec le cheval. Vous offrez des lectures, des rencontres autour de livres, des ateliers d'écriture pour enfants ou adultes, et vous avez obtenu le prix des découvreurs en 2003 pour le recueil L'air libre, dont on reparlera dans l'entretien. Vous êtes l'autrice d'une œuvre remarquée, abondante. Donc parmi les poétesses françaises qui comptent, on peut dire que vous faites partie avec Valérie Rousseau, avec Claude Favre, enfin bon, des femmes comme ça qui ont quelque chose de remarqué et de remarquable. Donc une œuvre abondante, avec des ouvrages dits entre guillemets pour enfants, des livres d'artistes, des participations en revue et dans des anthologies. Alors je vais donner quelques titres pour que les auditeurs puissent courir chez leur libraire au cas où. Abécédaire de vive gratitude, un livre duo avec Patrick Dubost aux éditions Lanskine. Derrière l'horizon aux éditions Backland, sorti en 2023. Cheval chevaux aux éditions Jacques Brémond, sorti en 2022. Eau aux éditions Chêne, dans la collection Poèmes pour grandir, avec des encres de Marion Le Pennec. Cher animal, aux éditions La Rumeur Libre, en 2019. Sais-tu, aux éditions Fifioc, en 2016. Si je suis de ce monde, édition Chêne, en 2012. Je, cheval, aux éditions Jacques Brémond, en 2007. Je, te, nous aime, aux éditions Chêne, en 2004. Donc voilà, encore et encore. Et dans une publication de 1993, vous écriviez qu'un homme vous avait arraché la langue. Que vouliez-vous dire par là? Est-ce que c'est de cette expérience que vous vient l'envie et le besoin d'écrire?
Oh là là, c'est vieux. 1993, c'est un peu douloureux comme souvenir, mais disons que c'est une présence, oui, un homme qui a accompagné mon enfance. J'ai un papa qui avait disparu quand j'étais bébé et un papa qui écrivait de la poésie. Et finalement, un autre homme est venu accompagner cette enfance qui, au contraire, avait une parole orale très encombrante et parlait haut et fort. Et c'est vrai que peut-être tout cela mélangé a contribué à ce que je... Enfin, j'essaye de ménager un abri d'écriture, en tout cas un espace un peu de liberté et de sécurité qui était la langue poétique.
Alors, évoquons à présent un livre qui à l'époque m'avait beaucoup plu. Il s'agit de L'air libre, paru en 2002 aux éditions Le Dé Bleu. Et dans ce livre, vous dites « Je me tais » et vous le répétez. C'est un livre composé de poèmes courts, en précisant à chaque fois pourquoi je me tais. Première explication. Parce que quand j'étais petite, un homme à côté de moi parlait. Il me donnait envie de vomir. Donc, je pense que c'est la même personne dont vous venez de parler tout à l'heure. Deuxième explication, parce que tout près, ça parle bien. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Troisième explication, parce que quelqu'un parle fort, il n'y a plus de place. Ou alors, par hasard, par habitude. Et une autre explication ? Croyez-moi, c'est mieux comme ça, parce que je suis fatiguée. Et enfin, comme un début de conclusion, et comme par provocation, comme ça, pour rien. Et alors ? Et à la dernière page, vous finissez par un « je ne me tais pas ». Donc j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu, si c'est pas trop trop loin, la genèse de ce livre, donc en vers libre, très rythmé. Il y a comme une espèce de flux, de flow, et on ressent à la lecture nous-mêmes un besoin de respirer, ce besoin, l'appel d'air. Et donc ce livre propose aussi une recherche de sa propre respiration en fait.
C'est vrai que l'air libre, c'est un peu mon premier livre, en quelque sorte. Il y a eu deux petits recueils juste avant, mais c'est vraiment le premier livre où j'ai construit un peu, enfin voilà, choisi, agencé un peu les poèmes, et puis aussi avec l'accompagnement justement de la rencontre de Louis Dubos avec le Des Bleus à l'époque, qui a été importante pour moi. Et cette histoire de silence, c'est vrai que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu à double. C'est à la fois nécessaire pour moi et à la fois c'est un peu menaçant aussi parfois. J'ai toujours eu du mal à la parole orale chez moi n'est pas forcément très naturelle. Donc il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour avoir faire des phrases rapides, pertinentes, efficaces, comme ça, sur le moment, en face des gens qui parlent. Et c'était un peu tout ça que je cherchais à dire. Et en même temps, je ne me tais pas parce que finalement, j'écris. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose de Patrick Dubos. Je ne sais plus comment il dit ça, mais écrire, c'est crier en silence. Donc, quelque chose comme ça, que finalement, c'était une façon de prendre la parole quand même, d'écrire. Mais c'est vrai que c'est un peu un bras de fer avec le silence. À la fois, j'en ai besoin et à la fois, il faut pas que je me laisse complètement recouvrir quoi, par le silence. Bon, là, j'ai fait quand même des progrès en parlant, mais c'est toujours un peu une source de stress, quoi.
Dans ce livre, dont je rappelle le titre, « L'air libre », vous écrivez ceci, et je vous cite, « Aucun silence, bien sûr. Écrire, écrire. » Comme s'il ne restait plus rien d'autre. Et pourtant, on n'est pas dupe. L'air libre. Les gens importants, ils sont tout près. Autour de nous, forcément. L'air libre. Entre le dedans et le dehors. Difficile de se maintenir au milieu. Crédible et authentique. Les deux. Se maintenir au milieu, crédible et authentique. Est-ce que c'est une forme d'accomplissement, de réalisation, d'ambition de vie, de marque de dignité humaine ? Quelque chose que vous recherchez ?
C'est un peu un équilibre, oui, toujours entre rester fidèle, enfin rester aligné un peu avec quelque chose à l'intérieur de soi et à la fois tenir compte de l'autre, du monde, de ce qui remue, de ce qui déporte, donc, et d'être aussi relié. Donc oui, c'est ça un peu... j'ai toujours l'impression que c'est un peu dans cette tension-là, enfin qu'il y a une tension entre les deux qu'il faut un peu maintenir, quoi.
Je vais vous demander de lire quelques extraits de ce livre, donc. L'air libre. Est-ce que
c'est assez ? Il y a toujours dans la nuit un homme qui ne dort pas, qui regarde le ciel ou ne regarde rien. Un homme épargné par tout ce noir qui ronge. Un homme n'importe qui. Un homme qui se sent plus vivant que le jour et la nuit réunis. Cet homme est déjà mort ou n'est pas encore né, peu importe. Il est assis par terre. Il ne demande rien. Les voix, ça bourdonne, ça grésille, ça caquette et puis ça submerge. Rien à quoi s'accrocher, c'est la mer sans terre autour, sans rocher, sans bateau, sans bouée. Tout seul, tout nu, tout essoufflé, avec vraiment personne, rien, avec les paroles, les vagues qui vont trop vite, la peur de couler, de ne plus respirer, le manque de silence, la rage de lutter, la tentative de parler pourtant, mais l'eau est froide. Et les conversations sans recours. Il y en a, ils travaillent dur, ils ont beaucoup de responsabilités, ils veulent commander, ils marchent vite, ils ne font jamais de surprise à personne, ils n'ont pas le temps. Il y en a, ce qu'ils aiment, c'est voyager, aller partout dans le monde, changer d'air, de paysage, courir, dévaler les pentes, se saouler, boire des visages. Il y en a d'autres, ils passent presque inaperçus. Ils ne veulent pas déranger. Ils font leur vie sans rien demander. D'autres qui aiment argumenter, discuter, peser le pour et le contre, analyser les causes, les conséquences. D'autres encore, ils aiment flâner, rêver, marcher, se taire, sourire. Et puis plein d'autres, c'est un peu mélangé. Ils veulent aimer, ils sont souvent émus, ils ont l'air de se débattre pour remettre de l'ordre. Les ficelles emmêlées avec des nœuds dans la tête, ça ne la gêne pas, l'écriture. C'est pas qu'elle démêle, elle démêle rien, elle dit rien, elle se laisse faire, je me débrouille avec elle. Il y a pourtant de l'air autour, mais chaque fois que je me mets à écrire, c'est comme si j'en avais manqué pendant des siècles. Je respire, j'écris, comme si je me remettais à marcher après un accident, une maladie. Ça peut arriver plusieurs fois par jour, un accident, une maladie. C'est pas rien, mais c'est pas exceptionnel. Je n'écris rien d'exceptionnel. Les choses viennent et des mots se collent dessus, dedans, je m'en occupe, je les accompagne, un bout. Le désordre ne devient pas de l'ordre, je ne range pas vraiment dans la langue, j'essaie de trouver juste assez de lumière pour y voir clair. Quand ça arrive, personne n'est là pour m'entendre, de toute façon, je ne dis rien.
Merci Alban Gélé pour cette lecture. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez D'assonances en dissonance, l'émission consacrée à la poésie contemporaine sur Radio Agora Côte d'Azur. Nous allons parler à présent, si vous le voulez bien, de livres dits pour enfants, ceux que vous avez écrits, bien entendu. Et pour commencer, faites-vous la différence entre un livre dit pour enfants et un autre, ne serait-ce que dans votre pratique d'écriture ? Est-ce qu'il y a deux dynamiques, deux recherches différentes, une forme de frontière entre les genres, ou bien tout cela est-il poreux ? Et concrètement, quelle est la différence pour vous quand vous écrivez entre un livre dit pour enfants et un autre, sous-entendu pour adultes ?
C'est toujours un peu compliqué cette question. J'écris pas en me disant je vais écrire pour les enfants, je vais... C'est un peu en cours d'écriture où je vois que peut-être les poèmes qui sont en train d'arriver, ça irait, je pense, à un éditeur ou à une collection qui serait plutôt jeunesse. Et du coup, ça oriente un peu en cours d'écriture les choses. J'aime bien mélanger. Enfin, d'ailleurs, quand j'anime des ateliers, je fais pas attention trop aux collections. J'emmène des collections dites jeunesse avec des groupes d'adultes et inversement. Et pour moi, il n'y a pas une poésie pour les enfants, une poésie pour les adolescents, une poésie pour les adultes, une poésie pour les personnes âgées. Enfin, ce serait un peu... triste. C'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'énergie ou de climat. Le livre « Pouvoir rêver », par exemple, c'est un petit texte que j'avais écrit à la naissance de ma première fille. Donc forcément, j'étais aussi un peu dans cette ambiance des albums jeunesse, d'être avec elle. C'est un livre qui est né comme ça. Après, il y a eu aussi un autre livre, « Poisson dans l'eau », qui est aussi relié à une autre de mes filles. Après, il y a « Voir les merveilles » qui est dans une collection qu'on peut dire peut-être jeunesse, mais en même temps, il y a comme deux lectures possibles aussi, finalement. Donc j'aime bien que les livres ne soient pas trop enfermés dans des cases.
Alors j'ai un petit extrait. « Chaque hiver, sur l'île la plus noire des rosiers sur Loire, deux fourmis se tricotent des mouchoirs au pied d'un arrosoir, en cas de désespoir. » J'ai pensé à un clin d'œil qu'on ferait à La Fontaine, parce qu'elles sont toujours industrielles et prévoyantes, les fourmis. Je recommande aussi Les Éblouissants, qui est un titre paru aux éditions Création Enfant dans la collection Petit Va, mais aussi, donc, vous l'avez cité, Pouvoir rêver, paru aux éditions L'Aïe des ours, un petit livre qui est d'ailleurs illustré par Valérie Linder, dont nous parlions tout à l'heure. Donc L'Aïe des ours, pour les... gens qui chercheraient une maison d'édition jeunesse, Michel Fievé fait un travail, je trouve, rafraîchissant. Et ma petite fille aime beaucoup la collection Graines d'ours. On peut aussi ajouter que la collection Petit Va est éditée par le Centre de création pour l'enfance. C'est la maison de la poésie de Tinqueux. Et c'est animé par Pierre Soletti, qui est le poète associé à la maison. Et la collection est conçue graphiquement, toujours avec différents artistes. Alors donc, vous nous l'avez dit, poésie pour adultes ou pour enfants, pour vous, la question ne se pose pas vraiment. C'est plutôt une question d'ambiance et d'énergie. Et pour trouver une transition, j'oserais une pirouette, parce que je vais citer un titre de vos livres qui semble se moquer du temps qui passe. Il s'agit de « L'au-delà de nos âges », qui est un livre paru aux éditions Chêne en 2020, et qui présente un parcours dans l'existence où chacun peut se reconnaître, puisque nous partageons tous la condition humaine et faisons des expériences communes équivalentes. Et donc là, qu'on soit vieux ou pas, on les a engrangés, ces expériences. Parfois, j'ai l'impression que c'est une vie sans compromission que vous visez. Vous écrivez votre refus, et je vous cite, « La vie bâillée, la vie mouchée et vaccinée. » Cette fausse sécurité que l'on nous vend pour mieux nous bâillonner et nous endormir, ou encore nous faire peur jusqu'à la sidération. Donc, provoquer notre inaction par vos mots et ce sentiment d'impuissance, le secouer lui aussi. Dans ce livre, le fragile côtoie le fort, l'intense et de rigueur, comme une exhortation à plus que vivre, à un supplément de vie, plutôt qu'une survie qui promettrait la durée. Est-ce que ça pourrait faire partie de ce que vous recommanderiez et qui serait un peu comme un art poétique, mais qui serait surtout un art de vivre pour le mettre en pratique?
Oui, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'intensité des choses, l'intensité de... Enfin, c'est à l'intérieur, hein, parce que finalement, ça se voit pas, mais pour moi, c'est toujours... Tout est toujours très intense. D'ailleurs, naïvement, des fois, j'ai l'impression de découvrir, là, finalement, petit à petit, plutôt récemment, que c'est pas forcément partagé, cette intensité, mais j'ai longtemps cru que c'était normal et naturel d'être tout le temps dans cette intensité des choses, des moments, des êtres, des relations. Enfin, c'est vrai que pour moi, ça peut pas être autrement, en fait, la vie. 2020, c'était... Oui, 2020, 2019. ce mot vacciné, il est venu aussi à cette période-là. Ce livre, c'est aussi une rencontre avec Christiane Singer, qui avait écrit Les âges de la vie, et finalement c'est un peu un livre en écho. J'avais l'impression, en écrivant ce livre, qu'elle était un peu derrière mon épaule, et je me suis inspirée beaucoup de son livre pour écrire celui-là.
Une grande dame que cette Christiane Singer. Alors vous allez nous lire deux extraits de ce livre, donc, s'il vous plaît.
Sans jamais reculer, nous marchons sur un fil, sans voir venir la fatigue. Nous collons des bouchons, escaladons des murs, cailloux dans les chaussures, nous en faisons des ricochets. Nous parlons à la lune, assis sur de vieux bancs, nous traversons sans regarder. Nos souvenirs, étoiles mortes, nous les rangeons dans des boîtes ou les draps de l'armoire, et nos regards traversent les piles de journaux, nos cheveux frisent, deviennent bleus, nous arrosons les géraniums en oubliant le plus souvent de sourire.
Merci. On passe à un autre livre, un livre paru aux éditions Lanskine, qui est une collaboration avec le poète Patrick Dubost. Alors, on le salue au passage. Le titre du livre est Abécédaire de vive gratitude, avec deux parties présentées tête bêche, l'une écrite par vous, Alban, et l'autre par Patrick Dubost. Dans ce livre, outre le sentiment de gratitude, chacun à votre façon, vous dites l'émerveillement d'être au monde. Est-ce que vous vous sentez en affinité poétique avec Patrick Dubost, lui qui est un auteur classé parmi les performeurs, mais dont la poésie méditative et quasi métaphysique peut surprendre ceux qui ne le connaissent que par le biais de la poésie orale?
Oui, Patrick Dubost fait partie de ma de ma constellation, de ma famille poétique. Et c'est une amitié aussi, et c'est un de mes poètes préférés, que je lis depuis longtemps et dont j'aime d'ailleurs les différentes voix, et puis aussi bien Patrick Dubost que Armand le Poète, par exemple. Et en fait, oui, cette histoire de gratitude, c'est vrai que bon, je crois que c'est fait plusieurs années. Je sais que dans Bouger, j'avais consacré un petit chapitre à merci, à cette énergie de remercier. Et puis, ces dernières années, j'ai commencé à écrire des listes de merci. Voilà, ça a donné lieu à ce petit livre qui s'appelle « Mille merci ». Et finalement, avec Patrick, on en a parlé au départ. Enfin, je sentais des fois des résistances aussi à cette énergie de gratitude. Et puis finalement, il m'a partagé ce texte qu'il avait écrit, « Les 36 merci ». J'ai trouvé ça tellement beau. Et cette idée de publier un livre à deux. Enfin voilà, c'est venu, ça s'est fait. Catherine de Lanskin a dit « OK ». Et voilà, donc ça a été une belle aventure. Et je suis heureuse de ce livre. Et en plus, sans du tout calculer, moi je suis partie sur l'abécédaire. Lui, il est parti sur les chiffres et c'était pas du tout calculé.
Oui, alors vous disiez que vous aviez fait paraître un ouvrage, plutôt considéré comme un livre jeunesse, intitulé « Merci au loup de Sibérie ». Ah oui. Voilà encore un merci. Oui. Oui. Donc ce livre paru en 2025 aux éditions Rue du Monde. Et il s'agit là encore d'une liste de merci afin de chanter la beauté du monde naturelle. Alors, on va revenir au livre en duo. Vous nous avez un petit peu dit comment ce livre est né à quatre mains. Est-ce que il s'agissait d'un merci de votre part qui correspond avec un rebond et une réponse de Patrick, ou bien c'est chacun... Vous écrivez de votre côté et vous rassemblez ensuite.
Oui, non, c'est deux textes vraiment indépendants qu'on a choisi de mettre comme ça en tête bêche dans le livre. Il n'y a pas de réponse. Voilà, moi je suis partie sur les lettres de l'alphabet. Et puis lui, c'est une suite de 36 petits poèmes. Voilà, c'est deux ensembles en fait, un peu autonomes. Ouais.
Oui, il n'y a pas eu d'interaction ou d'échange entre vous. Alors il y a une célèbre citation de René Char qui dit « Dans mon pays ». On remercie. En quoi cette tournure d'esprit, cette sensibilité au monde, cette attention aux petites choses qui l'air de rien, si l'on y prend garde, font que la vie est riche et belle? En quoi donc, dis-je, est-ce un besoin chez vous jusqu'à l'écrire et le faire publier? Et quel rôle, selon vous, la gratitude joue à la fois en poésie, mais aussi dans la vie sociale, puisque j'imagine que votre vie, elle est balancée entre... l'interaction avec les autres et puis ce moment de solitude et d'écriture.
Oui, ça a été une prise de conscience aussi, peut-être de l'autre versant du manque, de la plainte, un peu de la revendication qui prennent, je trouve, beaucoup de place. Et moi-même, en fait, je me suis rendu compte ces dernières années que j'étais un peu emportée par des énergies assez négatives qui prennent, mine de rien... des habitudes et beaucoup de place en fait, et jusqu'à empêcher aussi de voir tout ce qui est là en fait devant nous, disponible, accessible. Et finalement ces merci, c'était au départ, c'est né un peu comme ça pour tout d'un coup renverser la machine. Oui, c'est quand même puissant, mine de rien, c'est une énergie qui renverse justement les choses et qui est une source aussi infinie. Plus on remercie, plus il y a des merci qui viennent. Et dans les ateliers d'écriture d'ailleurs que j'anime, c'est un peu mon rituel de fin d'atelier, je propose un temps d'écriture et je suis à chaque fois étonnée, émerveillée par l'inspiration infinie des personnes à écrire des merci et les musiques différentes de chacun et c'est jamais les mêmes images, c'est jamais les mêmes musiques de merci et c'est jamais exactement les mêmes choses. Et les enfants, les adultes, enfin tout, à chaque fois, ça m'étonne en fait, c'est comme si plus il y en avait, plus c'est vraiment comme une source quoi, une source qui est intarissable.
Pour parler de quelque chose que je connais bien, certains rituels amérindiens jouent sur ce ressort-là. Le remerciement est pratiquement... les actes de leur vie sont toujours suivis d'un merci. Oui. Je rappelle que vous écoutez « D'assonances en dissonance », que mon invité aujourd'hui est la poétesse Alban Gelé. Alban, il y a une constante dans cette émission qui est de demander à mon invité de proposer et de partager avec les auditeurs une musique, une chanson, quelque chose, soit qu'il écoute que ce soit qui l'accompagne dans son processus d'écriture, ou quelque chose de symbolique, quelque chose qui a trait avec un événement de sa vie. Quel serait votre choix, Alban ? Et pourquoi ?
C'est un peu comme les poèmes, finalement, les musiques et les chansons, c'est un peu mystérieux. On ne sait pas exactement expliquer pourquoi ça nous touche. Mais cette chanson, là, Todo Cambia, cette idée de que rien ne reste dans le même état, que tout change, que tout passe. Voilà, ce grand cycle-là aussi du vivant, du visible, de l'invisible, ça me touche, ça me parle, ça résonne.
Eh bien, nous allons donc écouter cette chanson. Cambia, todo cambia. Une chanson interprétée par Mercedes Sosa, cette célèbre chanteuse argentine, qui chantait déjà cette chanson sur son album Será posible el sur en 1984.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia.
venez d'entendre Cambia todo cambia, qui était le choix musical de mon invité, Alban Gelé. Une chanson que vous avez entendue par la voix de Mercedes Sosa. Mais cette chanson a été écrite par Julio Numhauser en 1982. Julio Numhauser est un auteur-compositeur chilien, réfugié en Suède après le coup d'État contre le président Allende en 1973. Et cette chanson chante les souffrances de l'exil en même temps que la force de l'amour et la force du changement. Revenons à notre entretien, Alban. À cheval, je suis d'emblée au cœur des choses, désencombré, réuni, débarrassé des entraves périphériques, des nœuds stériles. Dans le vif du sujet, je me rejoins dans une extrême présence à ce qui m'entoure, dénoué. Donc ça, c'est un court extrait du livre intitulé « Je, cheval » paru aux éditions Jacques Brémond. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de cette passion, de cette relation que vous avez avec les chevaux et comment cela rejaillit sur et dans ce que vous écrivez.
Les chevaux, ils sont arrivés un peu dans ma vie au même moment que les poèmes finalement. C'est les poneys, les petits poneys à l'époque. Et je retrouve un peu la même énergie d'ailleurs quand je suis avec les chevaux que quand j'écris. Donc quelque chose de vraiment de l'intensité au moment présent, de, du mouvement aussi, du mouvement de la langue, du mouvement de l'animal. Et c'est vrai que la présence des chevaux, enfin, c'est une espèce de sensibilité comme si, de miroir aussi qui renvoie complètement ce qu'on peut être à l'intérieur. Et on a l'impression que le cheval va le capter, va nous le renvoyer en boomerang. Bah forcément, j'ai eu envie d'écrire aussi des poèmes un peu chevaux et de dire un peu mon rapport au cheval dans, ces, dans ce livre-là. Il y a la question de la liberté aussi. Peut-être il y a quelque chose avec le cheval, comme avec la poésie. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de... C'était des espaces communs, en fait, à la fois ce côté aussi abandon... ce côté risque, ce côté rythme aussi, à cheval. Enfin, les chevaux sont des poèmes.
Les chevaux sont des poèmes, qu'ils aillent au trot ou au galop ou au pas. Pour illustrer vos propos et votre réponse, je cite ici un petit extrait du livre « Cheval-chevaux » paru aux éditions Jacques Brémond en 2022. Et cette fois, le cheval devient l'allégorie. L'image même du déroulement de votre vie. Après tout, vous allez le lire vous-même, Alban.
Merci à toi, petit et cher cheval blanc dont je n'ai pas su entendre toutes les inquiétudes. Petit cheval blanc des promenades sans sel, entre les vignes, entre les arbres, dans la campagne et jusqu'au bord de la mer. Petit cheval de ma vie, jamais très loin de mes maisons, toujours un peu fuyant, secret, solitaire, toujours un peu ailleurs. Et moi, étais-je là? Petit cheval dans ma tête, cœur et corps, frère d'âme, petit cheval blessé, condamné, et puis guéri, petit cheval miracle, tellement léger entre mes mains, mes jambes, petit cheval ailé, toujours prêt à galoper, gris souris, gris pommelé, gris nuage, et puis tout blanc. Petit cheval s'éclaircissant avant moi sur le fil de nos années, toujours là, dans le pré, petit cheval transparent, devenu arbre, devenu ciel, petit cheval plume à qui je parle et que j'entends, merci à toi et vol galope maintenant, délesté de la terre, délesté de la peur et délesté de moi.
Ah, ça c'est un bel hommage. Alors, pour beaucoup de personnes, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Pour vous, non, ce n'est pas le chien, c'est bien le cheval. C'est aussi le chien. Mais c'est aussi le chien. Bon, d'accord. dans de nombreuses cultures et de par le monde, il en a été, ou il en est encore ainsi. Vous êtes-vous penché de façon ethnologique, anthropologique, symbolique ou spirituelle sur ce qui pouvait ainsi lier l'humain au cheval, l'humain aux animaux? Alors bon, Là, c'est une déformation professionnelle, mais je pense aux Indiens des plaines avec leur attachement aux bisons, aux chevaux, ou encore aux populations mongoles, ou bien même les Samis avec le renne. Donc, des populations et des cultures qu'on dit indigènes.
Oui, bah ces populations, je crois qu'elles ont vraiment des relations très différentes des nôtres avec les animaux. Enfin, dans le respect, même si ils sont amenés parfois à chasser ou à tuer. Enfin, c'est vrai que le côté occidental, c'est assez épouvantable en fait, le rapport aux animaux dans notre monde. Soit le côté extermination, massacre à grande échelle, soit le côté apprivoiser, rendre complètement dépendant de l'homme en fait. Donc l'animal n'a plus aucune autonomie. Donc, c'est quand même le cas des chevaux, des chiens, des chats. C'est vrai que ce côté, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ça en dit long. C'est vraiment l'homme qui parle à l'oreille des chevaux. Peut-être que ce serait un peu l'inverse, qu'on aurait peut-être intérêt à tendre l'oreille, à écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que c'est vrai qu'on se situe avec les dauphins aussi, tout ce qui s'est passé d'épouvantable. Enfin, c'est vrai que, bon, on est au tout début, j'ai l'impression d'une prise de conscience qu'il y a des enseignants qui sont parfois sans mots, mais dont on aurait beaucoup à apprendre.
Oui, c'est vrai que les animaux peuvent nous donner des vraies leçons de vie. On vient de parler des chevaux, mais le cheval n'est pas le seul animal qui retient votre attention. La preuve en est ce livre paru aux éditions La Rumeur Libre intitulé « Cher animal ». Ce livre est composé de 71 textes, chacun adressé à un animal, du plus petit au plus grand, qu'il soit volant, rampant, nageant, courant ou marchant. La grande diversité des animaux y est représentée et certains des textes sont accompagnés de très belles illustrations en noir et blanc qui sont les œuvres de Séverine Bérard. La préface est signée Éric Baratet, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et spécialiste de l'histoire des animaux. Alors il s'agirait, à la façon de Francis Ponge, qui prenait le parti pris des choses, de prendre le parti des animaux. Ni lettres à proprement parler, ni articles savants de naturalistes. Ces poèmes en prose ne cherchent pas à cacher ce que peuvent subir les animaux à cause des humains, donc avec leur esprit le plus souvent de prédateurs ou même de propriétaires, de dominants, à qui on doit obéir, à qui on doit se soumettre. Donc des humains qui ont le droit et le pouvoir de vie ou de mort sur les 10 animaux, mais pas que les animaux. Tout le vivant. Alors je disais donc, ces poèmes en prose ne cherchent pas à cacher ce que peuvent subir les animaux à cause des humains. On y côtoie de la douceur, de la tristesse, mais sans jamais tomber dans le pessimisme ou la pitié. En réalité, les animaux tels que vous les écrivez sont des sujets à part entière, et après avoir constaté les ravages de l'hégémonie humaine sur Terre, vous encouragez par vos propos, à savoir aussi aller à la rencontre de leur altérité, altérité au contact de laquelle nous nous trouvons enrichi, émerveillé, augmenté d'une dimension nouvelle. Comment est né ce livre Alban Gelé ? Est-ce une commande ? Est-ce un projet que vous avez nourri et proposé à un éditeur ? Est-il le résultat de notes prises dans la nature en observant les 10 animaux ? Ou bien simplement nourri de lectures encyclopédiques ?
Finalement, ce livre, il vient de très loin, de l'enfance, parce que bon, les animaux, ils ont toujours fait partie de ma vie. J'étais toujours avec des chiens, des chats, les chevaux au centre équestre. C'était vraiment des amis, des relations fiables. En fait, j'ai d'ailleurs voulu faire des métiers auprès d'animaux quand c'est posé au lycée, etc. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait être... J'ai jamais trop compris exactement pourquoi il fallait être bonne en maths et en physique et en biologie pour faire des métiers. Voilà, donc j'ai renoncé parce que c'était pas trop mon fort. Mais je suis partie plutôt du côté de la littérature et en fait... Je suis arrivée dans ce milieu un peu littéraire, poétique, où il n'était pas du tout question. Enfin, j'ai eu quelques années où j'avais l'impression que c'était un peu tabou, il fallait pas trop parler des animaux. C'était vraiment un milieu très humain, en fait, très le milieu de la culture, le milieu intellectuel. Là, ça a changé aujourd'hui, il y a beaucoup. dans les années 90. J'ai un peu mis ça de côté, tout en gardant mes relations avec mes animaux, mais sans plus en parler. Et puis, c'est il y a quelques années, en arrivant à Chêne-Hutte, là où je vis actuellement, où les animaux sont revenus plus près de ma vie, les animaux, les chevaux, les chiens, mais aussi les animaux, les sangliers, les animaux que je voyais comme ça dans la campagne. Et finalement, après, il y a une rencontre avec un artiste qui s'appelle Samuel Buchmann. Il me dit, je vais t'envoyer des cartes postales et t'écriras des cartes postales d'animaux qu'il trouvait chez Emmaüs et t'écriras à l'animal. Voilà. Donc, c'est en fait, Cher Animal, le livre est vraiment parti grâce à cette correspondance. Donc, j'attendais ces cartes postales et j'écrivais au chevreuil, au cheval. Après, c'était un peu toujours les mêmes animaux. Et au bout d'un moment, ça m'a donné envie d'élargir, de prendre un peu d'écrire d'autres lettres à des animaux qui n'étaient pas forcément sur les cartes, à d'écrire des lettres aussi plus documentées. J'ai eu envie de lire aussi des choses, de nourrir plus les lettres par des propos aussi scientifiques, d'apprendre aussi plein de choses. Je me suis rendu compte aussi qu'on connaissait rien, les animaux, qu'on n'apprenait rien à l'école dans tout le programme de 10 ans de scolarité, à part disséquer une grenouille. On n'apprend absolument rien sur les animaux. C'est vrai que ça m'a passionnée. Du coup, j'ai lu Éric Baratheil, Hélène de la Bigne, François Sarano, plein d'ethnologues, plein d'éthologues, protecteurs de chercheurs, de passionnés. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a reliée vraiment à ce rêve d'enfant, en fait, que je voulais. C'était un peu dans ces métiers-là, moi, que je voulais être. Ça me trouble toujours un peu parce que finalement, quand je lis ces livres, je me sens presque. C'est un peu comme une famille aussi, quoi. C'est une autre famille. Et donc, Cher Animal, après, j'ai un peu abandonné. Avec Samuel, il y a eu un petit crissement. C'était un peu le projet de publier au départ les cartes et les textes. Mais les cartes, en soi, il faisait une petite intervention de poinçon sur la tête de l'animal. Je trouvais ça un peu conceptuel. Enfin, ça résonnait pas trop. Et j'ai eu envie un peu de reprendre ce projet juste d'écriture et d'écrire des lettres qui est devenu Cher Animal. Et puis, c'était un peu compliqué aussi de le publier parce que mine de rien, justement, j'ai quand même retrouvé ce côté. Les animaux, finalement, les éditeurs de poésie, ils n'étaient pas très enthousiastes. Je me suis tournée vers des éditeurs justement plus scientifiques en me disant tiens, ça me fait plaisir finalement aussi, mais c'était un peu trop poétique aussi pour eux, donc finalement je me suis dit à un moment donné je vais pas trouver d'éditeur, et puis c'est La Rumeur Libre qui a accueilli ce texte, donc je suis très heureuse aujourd'hui, ouais.
Est-ce que le Samuel Buchmann dont vous parlez est celui qui est édité aux éditions Exopotamie?
Il est artiste, il fait des performances et voilà.
Oui, c'est ça, si je me souviens bien, c'est un artiste plasticien, mais pas que, performeur, et il a, si je me souviens bien aussi, publié un premier livre aux éditions Exopotamie, et le titre en serait « Se peut et tout chavire ». Alors maintenant, nous allons parler d'un poète disparu. Vous avez écrit un mémoire de maîtrise au sujet de la poésie du regretté Antoine Aimaz. Et s'il est besoin que je le rappelle, Antoine Aimaz, un grand ami du poète James Sacré, entre autres, et ami de Ariane Dreyfus aussi, enseignant agrégé en lettres modernes et docteur ès lettres de son vrai nom Antoine Petit, était ce poète né en 1955 qui disait de lui « Je suis un lyrique contrarié, plutôt du côté du heurt ». Son œuvre a été publiée aux éditions Tarabuste, aux éditions Une en particulier, mais pas que. Il a vécu à Angers, où il est mort, des suites d'un cancer le 3 mars 2019. Alors d'abord, pourquoi Antoine Aimaz? Et ensuite, est-ce que cette étude au plus près d'une œuvre importante a pu influencer votre façon d'aborder la poésie?
Antoine Aimaz, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, 19 ans même, à Nantes, où je commençais à aller écouter des poètes vivants, avec la Maison de la Poésie de Nantes. J'arrivais à Nantes, où j'étais à la fac. Et ça a fait partie, la lecture d'Antoine, c'était une des premières à laquelle j'assistais. Ça a été vraiment un choc, en fait, quand j'ai entendu cette langue. Pourtant, maintenant, je me dis, mais finalement, il avait très peu publié à l'époque, mais pourtant, il avait lu des livres. Enfin, ça m'a complètement bouleversée. Et je me suis retrouvée le soir à côté de lui à table par, je sais pas, quel miracle, parce que il a été tellement attentif, gentil. Enfin, il ressemblait. Voilà, c'était quelqu'un de profondément loyal, humain. Enfin. Et à partir de là, ben, en fait, j'ai lu tout ce qu'il publiait, tout ce qu'il écrivait. Il m'a beaucoup conseillé aussi d'envoyer à des revues de poésie. J'avais rien publié. Enfin. Et petit à petit, ça a été une belle amitié jusqu'à sa mort, en fait. Je lui envoyais souvent, d'ailleurs, des manuscrits pour avoir son avis. Il avait toujours un regard très exigeant et en même temps très juste. Enfin, ça me parlait beaucoup. Ça me permettait de re-questionner les textes. Enfin, et puis ce mémoire, bah, j'étais à la fac. Mon prof Daniel Briolet, qui est mort aussi aujourd'hui, mais qui était vraiment un chouette prof, passionné de poésie contemporaine, qui a accepté que je fasse mon mémoire sur un poète vivant. C'était pas gagné. Et ça a été vraiment une belle période parce qu'à l'époque j'habitais Nantes, mais j'allais à Angers justement voir Antoine pour lui partager mon avancée de travail, et c'était quand même un grand bonheur, quoi, parce que j'écrivais un mémoire sur un auteur qui validait au fur et à mesure ce que j'étais en train d'écrire. Enfin, je l'ai pas relu, mon mémoire, cela dit, ça doit pas être très passionnant, mais ça a été surtout une très belle amitié. Et puis sa poésie, ça fait partie les livres d'Antoine, ça fait partie de ceux qui s'usent pas, quoi, qui durent, en fait. Ça fait 30 ans que je les emmène, que je les lis, que je les trimballe toujours avec le même la même force, quoi.
En 2023, paraissait un livre aux éditions transphotographiques intitulé « New York City Traverse ». Un livre composé d'une vingtaine de textes courts, dont vous êtes l'autrice, et de photographies de la ville de New York, prises par Patricia Marais et Cyril de Ruino. Un livre qui a intrigué la nomade que je suis, habituée au séjour aux États-Unis. Est-ce que vous êtes déjà allé à New York, Alban Gellé? Et comment travaille-t-on sur photographie? Et à quoi étiez-vous sensible? Et quel était le fil que vous pouviez dévider qui vous menait à l'écriture à partir de l'image?
Alors non, je ne suis jamais allée à New York. Je suis allée au Québec, mais jamais aux États-Unis. En fait, ce livre, c'est une rencontre aussi avec ce couple de photographes on s'était rencontrés bien avant, enfin, il y a très longtemps. Et j'avais écrit ces poèmes d'ailleurs il y a bien longtemps. Et qui n'avaient pas trouvé, enfin, moi je les avais écrits pour eux, pour une exposition, ça n'avait pas été un livre. Et puis voilà, finalement, plus récemment, ils ont jamais cessé de vouloir en faire un livre avec leurs photos, ils ont réussi et du coup ça a donné lieu à ce livre. Donc oui, c'est un peu improbable pour moi. Enfin, c'est un peu étrange. Disons que ça me sort un peu de mes thèmes de prédilection. J'ai regardé leurs photos. C'était assez intuitif comme ça, ces poèmes.
Voilà. Bon, j'espère que le bruit de New York est bien rendu dans les photos. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors j'ai envie de finir notre entretien avec ce livre paru en 2012 aux éditions Chêne et qui porte pour titre « Si je suis de ce monde ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de 49 poèmes qui commencent tous par « tenir » et finissent tous par « debout ». Tenir debout, tenir droit, tenir le coup. Voilà qui me semble d'actualité puisque la vie de nos jours apporte son lot de joie, certes, mais aussi des difficultés, des incertitudes, des épreuves, et qu'il faut donc trouver la force ou la sagesse de tenir. Mais tenir, c'est aussi un lien d'attachement. Et je vous cite, « Tenir à ses bibliothèques, à ses bijoux, à ses photos, jusqu'au jour où définitif tout est perdu, sans aucun drame. Chemin marchant, une vie, vieillie, souriante, encore un peu, debout. » Donc il y a là comme une exhortation au courage et au partage. Et vous dites aussi, Tenir bon la plupart du temps après les chagrins, les saisons, les fêtes, refrains chantés, dansés et notre manque de légèreté parmi les amis, les tables, les rires. Allez, tout le monde, debout. C'était en 2012 et nous sommes en 2026. Est-ce que votre état d'esprit a changé ? Est-ce que vous ajouteriez ou enlèveriez quelque chose à ce livre aujourd'hui ? Est-ce que vous en appelez plutôt à la résilience, ou bien à la dignité, ou encore à la résistance ? À moins que ce ne soit un amalgame de ces trois.
Oui, exactement. Ça me va bien. Un amalgame de résilience, dignité et résistance. C'est plutôt exactement ça, en fait. Ouais, c'est vrai que... Et cette tension, oui, cette tension du verbe tenir, cette ouverture aussi, et cette nécessité, enfin, tenir si on veut habiter ce monde. C'est vrai que ce livre, il... Enfin, bon, il y a forcément quelques poèmes, peut-être, que je retoucherai un peu, mais je crois que c'est un livre qui... Oui, que je continue à lire d'une façon un peu plus... Ouais, un peu intemporelle, quoi, ouais.
Alors nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Je vais vous laisser parler des prochains livres à paraître, de vos projets, des chantiers d'écriture, de lecture en vue, en plus bien sûr de la résidence que vous êtes en train de mener actuellement.
Alors pour cette résidence, il y a un projet d'écriture autour de l'élément air. J'ai eu l'occasion d'écrire des poèmes donc, autour de l'eau et de la terre. Et je m'étais toujours dit que ça me plairait bien de continuer comme ça un petit peu sur les autres éléments. Donc là, j'ai choisi un peu l'air. Bon, même si on est dans un territoire qui a été très inondé, je me suis dit que j'aurais pu continuer d'écrire sur l'eau. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera comme texte, ni si ça donnera lieu à une publication ou pas, mais en tout cas, je vais essayer de creuser dans ce matériau-là, enfin dans cet élément-là. Et puis sinon, j'ai deux livres à paraître chez Chêne. Un cette année et puis un l'année prochaine. Et d'ailleurs, un qui s'appelle Invariable et qui est un peu dans la tension de si je suis de ce monde. Enfin, ça n'a rien à voir, mais quand même, il y a quelque chose. Je suis partie des petits mots invariables et qui commencent chaque poème. Et finalement, chaque poème commence par la fin du poème précédent. Et dans une espèce de resserrement, enfin, ces poèmes, ils sont un petit peu aussi serrés comme ça que les tenir debout. Voilà, c'est un petit peu pour moi dans la même énergie. Et puis un livre qui sera l'année prochaine dans la collection Poèmes pour grandir, qui s'appellera... le titre est encore en réflexion et en discussion avec l'éditrice, mais en tout cas, ça va être des poèmes qui sont là aussi encore accompagnés par la présence de ce papa invisible, mais toujours là.
Bon, bien, merci Alban. Il me reste donc à vous remercier chaleureusement pour d'abord votre accueil, vos réponses, et je suis certaine que les auditeurs auront été sensibles et auront apprécié votre sincérité, votre simplicité, et ça n'exclut pas évidemment la profondeur des réflexions. C'était D'assonances en dissonance, l'émission consacrée à la poésie contemporaine. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité qui, à son tour, nous introduira dans son univers et sa création poétique. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Merci beaucoup, Béatrice. Et à bientôt.